Je vais vous parler de l'institutionnalisation d'un dispositif public de prise en charge en chirurgie réparatrice du clitoris des femmes excisées, qui existe en France depuis maintenant une dizaine d'années. Mon premier point traitera rapidement de la politique de santé publique autour de l'excision, puis j'évoquerai la cartographie de l'offre de soins en France et la trajectoire de mise en circulation de la technique que j'ai pu tracer au cours de mon enquête sur une période historique de 15 ans. Ensuite, je vous ferai une brève description des professionnels de santé qui se sont investis dans et mobilisés autour de cette prise en charge. Enfin, je présenterai la distribution des modalités de prise en charge et vous entretiendrai au sujet des débats qui existent à leur propos au sein de cette arène professionnelle et les questions qu'ils soulèvent. Je finirai par quelques remarques de conclusion. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots de remerciement à celles et ceux qui ont rendu possible cette recherche au même titre que le soutien financier de l'assurance maladie. Je remercie le docteur Agnès Bourgeois-Moine du CHU Bichat-Claude Bernard de Paris, qui m'a accueilli dans son bloc opératoire, sa consultation de gynécologie durant 1 an et demi, m'offrant l'accès à ses archives, m'initiant à l'intelligibilité de pratiques et de savoirs experts avec une patience et une grande générosité. Je la remercie d'avoir su tisser avec moi cette conversation ardue, mais néanmoins nécessaire et féconde, entre sciences sociales et biomédicales. Ma dette à son égard est infinie. Je remercie bien entendu l'ensemble des professionnels que j'ai pu rencontrer au cours de ces années, et j'ai une pensée particulière pour le professeur Jean-Bernard Paniel, le docteur Emmanuel Piette du Conseil général de Seine-Saint-Denis, le docteur Véronique Carton du CHU de Nantes, madame Monique Hamelin du CH de Pontoise, et enfin le docteur Béatrice Cusin du CHU de Lyon. Pour finir, je remercie les femmes auprès desquelles j'ai cheminé ces dernières années, et en particulier Aminata Badji. Donc, je vais passer rapidement sur ma recherche doctorale donc, en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, a eu pour objectif global ces 4 dernières années d'analyser l'émergence et l'institutionnalisation du dispositif médical de prise en charge articulé autour de la possibilité d'une réparation chirurgicale du clitoris des femmes excisées. J'ai pour ce faire suivi l'apparition de cette technique de reconstruction au tournant des années 2000, son introduction et les modalités de son développement dans les pratiques de la gynécologie, les débats professionnels, associatifs, publics qui l'ont accompagné, et enfin le travail d'élaboration de protocoles et guides de bonnes pratiques visant à établir des chemins de décision médicale, travail qui mettait selon moi aux prises des conceptions différentes de l'objectif de l'intervention chirurgicale, qui était conçu soit comme une réponse au droit à réparation des victimes, soit comme un élément d'une prise en charge médico-psychosocio-sexo-sociale. Donc je partais du constat qu'il existe des divergences dans les décisions médicales de recourir ou non à la chirurgie. On pouvait les voir dans la construction des protocoles de prise en charge qui dessinent des manières différentes de poser un jugement médical et d'arriver à une décision. Ces divergences, dans les faits, se traduisent dans les différents sites par des taux d'opération allant du simple ou double, voire plus. Donc je faisais l'hypothèse qu'elles étaient liées à des conceptions différentes de la raison d'être de l'opération. Dans un cas, c'est l'opération elle-même par la reconstruction physique qu'elle réalise qui permet la réintégration d'une victime dans son droit, et en l'occurrence son identité et intégrité sexuelle. En ce sens, elle est un droit auquel les femmes doivent avoir accès, comme l'atteste d'ailleurs le remboursement de la chirurgie depuis le 1er mars 2005. Dans l'autre cas, elle est un moyen parmi d'autres pour aider les femmes victimes à faire face aux séquelles de l'excision et à leurs conséquences quant à leur vie reproductive et sexuelle. Donc, les résultats que je vous présente sont issus d'une enquête empirique réalisée de 2010 à fin 2013 et qui couvre la période 98-2013. J'ai constitué 2 bases de données descriptives sur les établissements de santé et les professionnels investis dans l'activité de chirurgie réparatrice. Je pense que c'est juste un peu avant. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu recours à des ressources documentaires imprimées, numériques et audiovisuelles. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit des annuaires de la Fédération hospitalière de France, des bulletins du Conseil national de gynécologie obstétrique de France, de la DGS, et un certain nombre de rapports publics. Mais j'ai également procédé à des entretiens avec les professionnels de santé et des questionnaires ont été adressés aux chirurgiens. Donc, en ce qui concerne la genèse donc le premier point, la genèse de la politique de santé publique, en 2006, un plan d'action et de lutte contre les mutilations sexuelles féminines est mis en œuvre par le ministère de la Santé, ce qui opère un déplacement notable dans le champ de l'action publique dominé jusqu'alors par des problématiques de prévention et de répression des pratiques ectomiques. Les MCF deviennent une priorité de santé publique. Bon, elles sont définies comme une atteinte à l'intégrité physique, une atteinte à la dignité des femmes et une violence faite aux femmes. Donc une stratégie globale de santé publique visant à prévenir, protéger, éduquer, soigner et conçue, qui relève des trois axes de la prévention, donc information et sensibilisation des professionnels de santé, dépistage et signalement des actes, réhabilitation et accès aux soins des victimes. Alors, je passe assez vite. Les objectifs qu'elle s'assigne sont nombreux et ambitieux. Donc, un programme de mobilisation et de formation des professionnels de santé et du secteur éducatif, des responsables de la formation initiale et continue en médecine, écoles de sages-femmes, de puéricultrices, d'infirmiers et des professionnels de terrain sur l'ensemble du territoire est mis en œuvre durant 2 ans. Parmi ces objectifs, le renforcement, la production et la diffusion des outils de prévention au secteur professionnel est notable, tout autant que la création de permanences accueil et écoute sur les 9 régions cibles. Et le soutien également au financement de la première étude hexagonale en santé publique, l'étude excision et handicap dont vous avez largement entendu parler, qui nous a donné la première estimation fiable de la population de femmes adultes concernées par l'excision sur le territoire. Donc quelques mots sur le contexte d'occurrence de cette politique de santé publique. En 2006, la transposition clitoridienne, donc qui est la chirurgie réparatrice, reconstructrice, mise au point par le docteur Pierre Foldès, est remboursée par la Sécurité sociale depuis environ 2 ans. Et depuis le 31 mai 2003, il y a une forte médiatisation de la chirurgie réparatrice dans l'espace public. Donc, il est fort probable que l'avènement de la chirurgie, du moins sa mise en narration médiatique et sa réception, ait constitué une fenêtre d'opportunité importante pour la mise à l'agenda public d'une politique de santé autour de l'excision. Mais il faut rappeler que d'autres facteurs, tels que l'institutionnalisation des violences faites aux femmes en France dans le champ de l'action publique, mais également la mise à l'agenda des questions de violence et de santé à l'échelle nationale et mondiale, sont à prendre en compte pour expliquer cet événement, ce phénomène et cette politique. Donc, j'en viens à la géographie de l'offre de soins. C'est une offre de soins concentrée en Île-de-France et disponible...
Micro, s'il vous plaît.
Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est une offre de soins concentrée en Île-de-France. Concentrée en Île-de-France et disponible dans toutes les régions où sont présentes les populations concernées par l'excision. Elle est relativement équilibrée entre les secteurs privés et publics en Île-de-France, une légère prédominance du secteur privé. Une offre toujours en Île-de-France concentrée à Paris. Elle connaît, donc si on s'intéresse à sa temporalisation, à sa temporalité, elle connaît une phase de développement. Elle est initiée donc, à Saint-Germain-en-Laye en 1998, pour ce que j'ai pu en tracer donc, à la clinique Louis XIV du docteur Pierre Foldès. Et elle connaît une phase de développement à partir de 2007. Alors, si on s'intéresse un peu plus à Paris, là, vous avez en turquoise la distribution des cliniques, donc largement répartis dans tous les arrondissements ouest de Paris. En rouge, les établissements de santé hospitaliers ayant cessé l'activité de transposition clitoridienne et en jaune, ceux qui sont toujours en activité. Donc, sur la période couverte par l'enquête, qui est 98 à 2013, 50% des établissements publics ont cessé leur activité. Si nous nous intéressons à la dissémination, à la mise en circulation de la technique, sur les modalités desquelles je ne m'arrêterai pas, mais qui seraient intéressantes à discuter plus tard, nous avons une dissémination relativement récente de la technique dans les pays européens, à partir des années 2010, bien qu'en Suisse, c'était beaucoup plus tôt, et en Suisse, une introduction plutôt dans les cliniques, hein, qui est la pratique de la chirurgie en hospitalier est récente. Par contre, une introduction assez ancienne, enfin, dans les années 2007, je pense, dans les cliniques. Et en Afrique, nous avons une offre qui est présente dès 2006, comme le docteur Matsou l'a souligné, et 2012 au Sénégal. Donc, venons-en à décrire un peu plus les professionnels de santé qui sont investis autour de cette chirurgie. Il se trouve que le dispositif de prise en charge, comme vous voyez, il y a 56% de chirurgiens dans la population de professionnels de santé que j'ai inventorié. C'est un dispositif donc centré sur la pratique chirurgicale et investi par les professions de la sexologie. Hein, ils sont à 16%. Et ce qui est notable, c'est qu'elle est investie à part égale par les sages-femmes et les psychologues. Alors, en ce qui concerne plus précisément les chirurgiens qui pratiquent la transposition clitoridienne, 60% d'entre eux sont des gynécologues et 34% sont des plasticiens. La répartition des professionnels de santé par sexe est concordante avec la structure par sexe des professions en question. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Donc, c'est à peu près la même chose. Vous constatez qu'il y a 2,5% d'urologues qui se sont intéressés, mais ça, c'est aussi normal. Si on s'intéresse un peu à la spécialité secondaire des chirurgiens, sans trop de surprises, pour les gynécologues, ils sont bien entendu obstétriciens par ailleurs. Et pour les plasticiens, la majorité d'entre eux pratiquent la chirurgie génitale et une infime minorité, la chirurgie génitale et transsexuelle. Donc venons-en aux modalités de prise en charge des femmes excisées en gynécologie et en France. Il y a un spectre d'expérimentation assez large, mais on constate une prévalence de la consultation de chirurgie gynécologique dans la configuration des modalités de prise en charge qui sont inventoriées, avec une pluridisciplinarité à géométrie variable qui révèle la polythétie des cadrages et des normes professionnelles concernant le corps, le sexe et la subjectivité des femmes, et des lectures divergentes de la place de la chirurgie dans l'élaboration du soin. Alors, en ce qui concerne...
Il vous reste un peu moins de 5 minutes.
Très bien, je vais finir bientôt. Donc, la répartition des établissements de santé en France par type de prise en charge, il y a une majorité de centres qui proposent une consultation de spécialistes. Alors, en ce qui concerne les enjeux autour de la prise en charge, je pourrais dire que pour ce qui fait débat, parmi les professionnels de santé qui débattent autour de cette question, on ne peut pas dire qu'il y a un consensus sur les traitements à élaborer à partir du diagnostic d'excision. Il y a un consensus sur le dommage corporel et un désaccord sur la nature du préjudice et la résonance de l'excision dans la trajectoire de vie des femmes excisées. Donc, la nature et la hiérarchisation des séquelles posent problème. Se pose aussi la question des ressources cognitives et cliniques légitimes à mobiliser pour évaluer la situation clinique de la patiente en demande de chirurgie. Donc, l'indication de la chirurgie varie aussi selon que l'organe résiduel est intégré comme une substance ou comme une entité en soi dans le raisonnement médical. Et par conséquent, il y a une interrogation forte chez certains professionnels de santé sur l'efficacité, et là j'inclus aussi bien entendu les chirurgiens, sur l'efficacité et l'opportunité du traitement chirurgical de l'excision. Je vais passer assez vite sur ça, puisqu'il me reste 5 minutes, mais dire simplement que ce qui fait, s'il y a un conflit de définition, c'est autour de l'évaluation clinique de la situation de la patiente, et que la sexualité des femmes excisées est mise en question. Donc il se pose aussi la définition des critères pertinents et des ressources techniques adaptées à une prise en charge sexologique. Et plus globalement, la pluridisciplinarité est en question. Je dirais qu'en fait, pour conclure, puisqu'il me reste 3 minutes...
À peine 2, oui.
À peine 2. Donc, que les différentes modalités se partagent, se distribuent selon un modèle biomédical qui préconiserait une approche pathologique, somatique, juridique de l'excision qui est conçue comme une mutilation, qui part du constat d'un préjudice anatomique et sexuel et qui relèverait plus d'un paradigme mécanique et neurophysiologique de la sexualité et qui se pose des questions sur la prise en charge donc des victimes de violences, et un modèle plus bio-psychosocial, qui a une approche psychotraumatique comportementale de l'excision, qui s'intéresse à traiter l'expérience de violence sexuelle autonomisée par rapport à l'inscription corporelle, et donc qui préconise plutôt des techniques discursives de réforme de l'expérience incorporée de l'excision. Et là, je pense notamment à des équipes qui sont très, très bien connues en Île-de-France, comme l'équipe de Montreuil. Donc je dirais, pour conclure, 2 choses. Nous avons en France une offre de soins riche, dense, diversifiée, avec une vision construite sur les enjeux éthiques, et qu'il serait peut-être temps de passer à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques à l'initiative de la Haute Autorité de Santé, puisque nous avons très clairement des plasticiens et des gynécologues qui ont investi la pratique. Il s'agirait de valoriser l'expertise expérimentale dont nous disposons par un effort accru de la recherche en evidence-based medicine. Une mutualisation des ressources aussi serait appréciable, puisque nous sommes dans un environnement économique contraignant pour le système de santé. Et partant, peut-être une réduction du périmètre de l'offre de soins qui serait mis en adéquation avec les potentiels de recrutement et les besoins des territoires. Et peut-être penser aussi au remboursement de la consultation de sexologie, qui, contrairement à la prise en charge en psychothérapie, n'est pas disponible, au grand regret de beaucoup de professionnels de santé, notamment de chirurgiens. Donc, en ce qui concerne ma petite présentation, je dirais qu'il manque une évaluation quantitative de la demande globale de la chirurgie réparatrice. J'ai des estimations, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant les données agrégées concernant la quantité d'actes opérés. Ce qui serait intéressant, c'est également de cerner exactement la demande globale, le recrutement global des centres. Donc les données sont à affiner, à compléter, à vérifier auprès des professionnels de santé. Et donc je les invite, puisque cette enquête n'est pas finie, à bien vouloir répondre, si c'était possible, à un questionnaire en ligne qui est prêt, hein, qui est prêt en anglais et en français, puisque je suis la cartographie de la prise en charge en chirurgie réparatrice qui est en train d'essaimer quand même en Europe et en Afrique depuis un certain moment. Donc je vous remercie pour votre
merci attention. Donc on aura 200 réponses sous 2 jours. Merci.